Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'Instant M.
Vous coupez ?
Non,
vous
coupez.
Vous êtes en direct, allez-y.
Impossible d'y échapper si vous vous promenez sur les réseaux sociaux. Des vidéos courtes, rythmées, très colorées, souvent sous-titrées, pour qu'on puisse les regarder sans le son. Elles sont diffusées par des médias en ligne qui veulent capter le public là où il se trouve, sur Facebook et sur Twitter, et pas, ils n'ont pas de site internet, encore moins de support papier. Tout passe par les réseaux sociaux. Depuis quelques mois, en France, aux côtés de Brut et de Loopsider, Agiplus s'est installé sur ce créneau de l'info en vidéo, virale si possible. La directrice générale d'Agiplus est mon invitée ce matin. Elle vit à Doha, au Qatar. Oui, car Agiplus, c'est loin d'être un détail, appartient au groupe Al Jazeera, empire médiatique détenu par la famille royale qatarienne. On va voir avec Dima Khatib s'il est dangereux pour un média d'information de dépendre uniquement de Facebook et de Twitter. Et quel est le degré d'autonomie, d'indépendance d'Agiplus à l'égard du régime qatarien. Dima Khatib est journaliste et traductrice de formation. Elle parle 8 langues, dont le français, ce qui nous arrange pas mal ce matin.
L'Instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
Bonjour et bienvenue Dima Khatib.
Bonjour, bonjour.
Pourquoi n'est-il écrit nulle part sur la page Facebook d'Agiplus que vous appartenez au groupe Al Jazeera ?
Non, non, si c'est écrit sur notre landing page, notre page d'atterrissage, si on veut l'appeler comme ça, c'est-à-dire agiplus.net, ça existe pour toutes les langues, en 4 langues, arabe, français, anglais, espagnol. Vous pouvez avoir accès sur l'information directement sur la page. De quoi il s'agit ? Qui est Agiplus ? Et c'est marqué en bas, Al Jazeera Media Network. Et on ne le cache pas en place. Agiplus, ça veut dire Al Jazeera Plus. C'est un plus par rapport à Al Jazeera. Mais on pensait que Al Jazeera Plus, c'est très long pour les réseaux sociaux. Donc on a fait Agiplus, mais on ne se cache pas du tout. Et je trouvais marrant que vous disiez la famille royale catalane, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Al Jazeera, ça n'appartient pas à la famille. La famille, c'est une famille. Nous, on est un projet financé par l'État du Qatar, comme la BBC, comme France 24. C'est pas une famille, c'est-à-dire moi, je reçois pas des appels de l'émir du Qatar.
C'est la famille qui est au pouvoir au Qatar, effectivement.
Oui, mais c'est l'État quand même. Il y a un État au Qatar, c'est pas une famille. La famille est au pouvoir. Mais nous appartenons pas à la famille royale Al Thani. On n'a pas de contact avec la famille Al Thani. Et voilà, je trouvais ça... Je trouve toujours très marrant comment on nous présente, parce que ça se voit que bon, on n'est pas très bien compris des fois, peut-être. On est vraiment un média. Moi, je suis vraiment une journaliste. Et j'ai fait une carrière de 21 ans avec Al Jazeera de journalisme partout dans le monde, vraiment, dans 5 continents.
Vous avez notamment dirigé une agence d'Al Jazeera en Amérique latine. On va revenir en détail sur Agiplus dans quelques instants. On jette un coup d'œil d'abord, si vous le voulez bien, à l'actu des médias en quelques brèves. Avec une avalanche d'hommages toute la journée d'hier à l'annonce de la mort de Philippe Gildas à 82 ans, Philippe le prêtre de son vrai nom restera associé à Nulle part ailleurs, émission emblématique du Canal Plus des années 90. Antoine Decaune, à qui l'on doit les plus beaux fous rires de Gildas à la télé, lui consacre une émission radio spéciale aujourd'hui. Ça s'annonce évidemment formidable. Rendez-vous entre 16h et 17h sur Inter. Elle aussi, elle était formidable. Dans un tout autre registre, la famille Beaumont sur TF1. Annie Dupéret, Bernard Lecoq et leurs nombreux enfants, des adultères en pagaille, des secrets de famille, des divorces, des remariages. Une famille formidable, c'est terminé. TF1 l'a annoncé ce week-end dans une bande-annonce. La 15e saison, qui sera diffusée cet hiver, sera la toute dernière. Le premier épisode a été diffusé en 92. Le créateur de la série qui portait cette famille formidable depuis 26 ans, Joël Santoni, est mort en avril dernier. Il est apparu pour la première fois dans le 8e épisode de la première saison, en même temps que Krusty le clown. L'épicier d'origine indienne est vite devenu un personnage récurrent des Simpsons. Eh bien, il est désormais supprimé. Vous ne verrez plus Apu dans les Simpsons.
Là, voilà, le premier mini-marché du monde.
T'as pas intérêt à oublier le chiffre.
Il faut que vous critiquiez tout ce qu'on fait.
L'épicier de Springfield était au cœur d'une polémique depuis l'année dernière. Un documentaire intitulé « The Problem with Apu » accusait la série de véhiculer des clichés racistes via ce personnage. Les producteurs ont annoncé que le personnage était tout simplement supprimé. On ne le verra plus dans les nouveaux épisodes, tout comme sa femme et leurs enfants. Mais je rappelle que Dima Khatib, la patronne d'Agiplus, est mon invitée. Je suis curieuse d'avoir votre réaction sur cette affaire à Pou dans les Simpsons. Est-ce là le triomphe du politiquement correct, à votre avis?
Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment suivi l'affaire. Je ne pourrais pas la commenter. Donc oui, voilà.
Bon, pas de commentaire.
Non, pas de commentaire, je n'ai pas vraiment suivi.
Directrice générale d'Agiplus, hein, je le rappelle, média d'information numérique présent uniquement sur les réseaux sociaux, en anglais, en arabe, en espagnol et en français depuis décembre 2017. Voilà. Alors la page Facebook d'Agiplus en français regroupe pour l'instant 380 000 fans. On est loin, très très loin des 11 millions que compte votre version anglaise. Mais on est loin aussi des chiffres affichés par Brut, qui est votre concurrent direct en France, 1,6 million. Quelles sont les ambitions d'Agiplus en France, dit Makatib?
Alors je dois dire que le nombre de followers, comme on les appelle sur Facebook, abonnés sur YouTube, etc., c'est pas vraiment notre indication de succès, parce que vous trouverez que CNN ou même Al Jazeera en anglais, ils ont beaucoup plus de followers sur Facebook qu'Agiplus anglais,
mais, oui, mais vous, on a beaucoup plus d'impact. Vous véhiculez uniquement sur les réseaux sociaux, justement.
Oui, mais on a beaucoup plus d'impact parce qu'en fait, c'est le taux d'interaction qui nous intéresse. Alors, notre taux d'interaction est le plus élevé dans le marché français. Depuis qu'on a commencé, en fait, on a construit ce taux d'interaction et on continue depuis quelques mois.
Qu'est-ce que c'est précisément le taux d'interaction?
Alors, c'est combien de partages par histoire, combien de commentaires, combien de likes. Alors j'aime pas, je suis fâché, je suis heureux, etc. C'est ça en fait le taux d'interaction. Donc en fait, si c'est l'impact de la vidéo.
Même si je ne suis pas fan d'Agiplus sur Facebook, si je vois passer une vidéo et que je la partage, je suis comptabilisée dans votre taux d'interaction.
Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment le taux d'interaction. Et nous avons le taux d'interaction le plus élevé dans le marché français selon nos études. Et en fait, on fait cette étude de façon hebdomadaire pour voir notre progrès. Alors quelle est notre ambition? C'est la même qu'on a partout dans le monde où on offre un contenu différent, certainement, et ça je crois que les gens l'ont noté, on donne de l'espace à ceux qui n'ont pas de voix. Voilà, parce qu'on considère que si déjà les pouvoirs, par exemple le pouvoir en général, a de l'espace dans les médias, il ne faut pas donner au pouvoir le même espace qu'on donnerait aux citoyens ou aux moins privilégiés, parce que comme ça on va renforcer le pouvoir médiatique qu'a déjà le pouvoir. Donc en fait, on essaye de donner une version différente des histoires depuis le point de vue de notre audience. C'est très humain ce qu'on fait. On parle pas de la politique depuis le point de vue, comme Al Jazeera le ferait par exemple à la télé, point de vue d'un politique. Non, on parle toujours du point de vue de l'audience. Et en fait, l'audience nous nourrit tous les jours, nous envoie des idées. Et souvent, nos histoires qui ont le plus succès, c'est vraiment l'audience qui nous a envoyé les idées. On reçoit des idées tous les jours.
Qu'est-ce qui vous distingue de Brut, puisque c'est votre concurrent en France?
Oui, alors moi, je pense que c'est marrant parce qu'en fait, Brut s'est basé sur Agiplus pour se lancer dans le marché français.
C'est vrai qu'Al Jazeera est un des précurseurs en termes de ce qu'on appelle le cross-média. Hein, faire du journalisme sur tous les supports, y compris sur les vidéos très courtes, très rythmées.
Voilà, oui. Agiplus était le premier aux États-Unis. Avec Nowzis, on s'est lancé en même temps. Et Brut nous a copié en France avant qu'on arrive dans le marché français.
Mais en France, ils étaient là avant vous, en tout cas.
Oui, c'est fascinant. C'est de l'apprentissage continu. Donc nous, on regarde ce qu'a fait Brut pendant ces dernières années. On apprend aussi, moi j'adore ce genre d'expérience. Alors qu'est-ce qui nous différencie? Je crois que le format, ça peut paraître comme identique, mais en fait c'est pas identique parce que nous on fait un type d'histoire qui n'est pas toujours basé sur l'actualité. On fait des vidéos, ce qu'on appelle les vidéos de contexte, c'est-à-dire on explique les phénomènes ou les concepts en général, et puis on fait beaucoup d'histoire très humaine, très proche de l'audience. Je trouve que Brut est beaucoup plus français. Nous, on fait beaucoup plus de l'international aussi. Ils font aussi de l'international. Mais moi, je trouve que c'est une concurrence très saine. Et j'aimerais bien même voir si on peut avoir une collaboration avec Brut. On le fait aux États-Unis avec nos concurrents. Alors, ils prennent nos histoires, ils les diffusent chez eux. Nous, on prend leurs histoires, on les diffuse chez nous. Dans le monde digital, c'est pas comme la télé et les journaux. Ici, tout est possible.
Il y a la place pour tout le monde ou il y aura, à votre avis, un écrémage dans quelques années de tous ces sites numériques qui diffusent uniquement
Très
sur les réseaux
bonne
sociaux
question. Dorothée, je crois qu'il y a toujours de nouveaux espaces qui se créent dans le monde. Donc, on n'aurait pas pensé il y a 20 ans qu'on serait là en train de parler de médias qui existent seulement sur les réseaux sociaux. Et on n'aurait jamais imaginé avoir plus d'audience sur Facebook qu'à la télé.
On en vient naturellement à la question du modèle économique, dit Makatib. Vos vidéos ne sont disponibles que sur le réseau social. Est-ce que c'est pas dangereux pour n'importe quelle entreprise de dépendre à ce point de Facebook et Twitter et d'éventuels changements des algorithmes à l'avenir?
Oui, c'est dangereux. Mais moi, je préfère toujours penser, parce que je viens quand même du journalisme, je préfère toujours penser que c'est nous, les journalistes, qui, en fait, trouvons une opportunité pour arriver à plus de gens. Peut-être c'est limité par quelques restrictions, peut-être c'est temporaire, mais c'est une opportunité incroyable pour raconter des histoires. C'est une opportunité incroyable pour savoir qui est de l'autre côté. Et d'ailleurs, je dois dire que, comme on parlait tout à l'heure de Brut, de nos concurrents, sur Facebook, on arrive à savoir, par exemple, combien de femmes et combien d'hommes nous suivent. Et par exemple,
voilà des données personnelles précieuses.
AJ Plus, par rapport à la plupart des médias digitaux dans le monde, pas seulement dans le marché français, a le taux d'interaction le plus élevé de femmes par rapport à hommes, dans toutes les quatre langues. Et en fait, on a plus de femmes que d'hommes dans les rédactions et dans les autres sections. On a 53% de femmes. Et dans la prise de décision, on est 50-50. Donc moi, je suis très fière de pouvoir utiliser un endroit comme Facebook ou Twitter comme outil, non seulement pour raconter des histoires, mais aussi pour comprendre mon audience et pour interagir.
Mais vous pourriez utiliser les réseaux sociaux pour attirer le public vers votre site d'info, comme le fait par exemple Combini en France.
Oui, c'est un autre modèle, mais c'est différent. C'est-à-dire que notre audience vit sur les réseaux sociaux.
Alors moi, mais sur Facebook, sur Twitter, il y a de la censure parfois aussi.
Oui, parfois aussi, et il faut le combattre. Et puis si vraiment
mais
Facebook
s'exposer chez eux, c'est respecter leur loi.
Oui, respecter leur loi, comme on respectait avant le loi par exemple des compagnies, des sociétés de câbles ou satellites. Eux aussi nous coupaient des fois, ils mettaient des conditions. C'est la même chose. En fin de compte, ce qui compte, quel journalisme tu vas faire avec les outils qui existent dans le marché pour arriver à ton audience. En fait, c'est ça. Le journalisme qu'on fait, pour moi, ça définit tout. C'est pas important si je suis sur un réseau social ou dans un journal ou sur la télé. Quel journalisme je fais dans ces espaces?
Est-il envisageable de faire payer un jour les internautes pour avoir accès à vos contenus?
Nous, non.
Jamais?
Non. Moi, je ne voudrais jamais et je n'accepterai jamais. Alors peut-être, peut-être dans un schéma différent dans l'avenir. Non, c'est pas. Je crois que c'est un droit, l'information. C'est un droit. C'est pas un produit commercial pour moi. Et d'ailleurs, on fait pas de publicité.
Mais si t'es gratuit, c'est que c'est toi le produit. Mais si c'est gratuit, pardon, c'est que c'est toi le produit. C'est ce qu'on dit souvent sur Internet. C'est les données personnelles de l'internaute qui intéressent avant tout les opérateurs.
Notre audience, c'est nous, en fait. Oui, je suis d'accord que notre audience, c'est nous. Nous, c'est l'audience. Et si on commence à faire une transaction commerciale, il y aura d'autres intérêts. Et c'est pas le journalisme qu'on voudrait faire, qu'on pourra faire.
Alors, venons-en à vos relations avec le Qatar, si vous le voulez bien. AJ Plus appartient, on le disait, à Al Jazeera, chaîne d'infos créée en 96. Oui. L'ambition à l'époque, il faut le rappeler, c'était de rivaliser avec CNN, de raconter le monde du point de vue arabo-musulman.
Et on l'a fait.
Al Jazeera est très vite devenue une référence dans le monde arabe, une chaîne qui offrait des débats très contradictoires. C'est un empire médiatique aujourd'hui, une chaîne anglophone qui est née en 2006, des chaînes pour la jeunesse aussi, des chaînes sportives dont fait partie beIN Sport en France.
Ah oui, mais attention, beIN Sport ne fait plus partie d'Al Jazeera, c'est beIN.
À la crise,
oui,
à la
création. Ils sont devenus très très grands. Et donc, c'est maintenant beIN. Ça n'a rien à voir avec Al Jazeera, mais moi, je suis fière qu'on ait créé cette base. Et aussi, les enfants et la jeunesse, les chaînes.
Ça fait
enfants.
Partie de l'histoire de cet empire
voilà,
médiatique.
Voilà, de notre héritage, oui.
Et donc, ce média 100% numérique, 100% réseaux sociaux. Est-ce qu'il est imaginable un jour de voir, par exemple, sur AJ+, un reportage critique à l'égard du PSG qui appartient au Qatar?
Ah oui, absolument. Mais en fait, nous, on fait tout le temps des vidéos critiques au Qatar, surtout en arabe, parce que c'est la langue qui intéresse le plus l'audience qui s'intéresse au Qatar. On le fait tout le temps. Et d'ailleurs, les gens, ils sont toujours épatés, étonnés pour comment ça se fait que vous faites une vidéo, vous critiquez les relations du Qatar avec Israël, par exemple, quand le Qatar reçoit des athlètes israéliens. On est les premiers à faire une vidéo à parler avec des Qatariens qui ne sont pas d'accord. Et franchement, on a toute la liberté de faire ce qu'on veut sur le Qatar, sur les autres pays. Peut-être on n'en fait pas très souvent parce que le Qatar est un pays très très petit et c'est pas aussi important que, je sais pas, d'autres pays dans le monde.
Mais comme l'Arabie Saoudite, ou comme l'Arabie Saoudite, qui est un grand rival du Qatar dans la région et qui est souvent épinglé par AG+.
Oui, oui, mais l'Arabie Saoudite n'est pas, vous dites rival, mais en fait l'Arabie Saoudite s'acharne sur Al Jazeera et AG+. Moi, je suis sur les listes noires des Saoudiens, des Émiratis. Moi, personnellement, je suis attaquée tous les jours sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone, avec des menaces, comme quoi on va te découper, comme on a coupé le journaliste saoudien. Quelle musique tu voudras avoir quand on découpe avec ton fils, en plus, tous les jours. Hein. Mais nous, on ne baisse pas notre journalisme à ce niveau. On ne répond pas à tout ça. Ce qu'on fait seulement, c'est de l'information. Et attention, quand l'Arabie Saoudite fait un truc, célèbre un truc comme par exemple donner à la femme enfin le droit de conduire, nous, on célèbre avec. Parce que c'est l'homme et la femme qui nous importent. C'est pas les États, c'est pas les gouvernements, c'est pas le pouvoir.
Écoutons un extrait d'une vidéo récente diffusée sur AG+.
Le terme initial LGBT est né dans les années 90 pour remplacer le réducteur communauté gay. Il s'est progressivement enrichi et étendu pour devenir de plus en plus inclusif. Aujourd'hui, en France, LGBTQI+ est plus communément utilisé, le plus désignant toutes les typologies non mentionnées dans LGBTQI. Mais que veulent dire chacune des lettres de LGBTQI ? Et surtout, quelles lettres se cachent derrière le plus ? On vous explique le lexique derrière LGBTQQIP2SAA.
Ça peut sembler un peu baroque en France, hein, ces très très longs acronymes. Oui. Est-ce qu'il n'est pas un peu contradictoire, Dima Khatib, de multiplier les vidéos de défense des droits LGBT tout en étant financé par le Qatar où, je parle sous votre contrôle, l'homosexualité est interdite ?
C'est-à-dire que nous, ça c'est un produit français dans le marché français, mm-hmm. comme notre produit en anglais dans le marché américain, comme notre produit espagnol dans le marché mexicain, latino-américain. On s'intéresse à ce qui intéresse l'audience. Alors, c'est un thème très important, c'est un sujet très important aux États-Unis, au Mexique et ici. On va le faire, on n'a pas peur. Et c'est, pour moi, c'est une raison de plus de vraiment penser qu'on peut faire le journalisme qu'on veut faire. C'est un sujet qui pourrait être tabou dans la société qatarienne, ça l'est. Mais ça ne m'empêche pas, moi, de faire un sujet comme ça et plein d'autres sujets sur l'homosexualité ou sur n'importe quel autre sujet qui intéresse mon audience dans le marché de ce produit. Pour moi, c'est génial. Alors, est-ce que je pourrais parler de l'homosexualité au Qatar ? J'aimerais bien, quand c'est un sujet pour les Qatariens.
On vous accuse souvent d'être le bras soft power de la politique étrangère du Qatar dans le monde entier. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Dima Khatib ?
Si on était vraiment ça, on n'aurait pas gagné tellement de prix. Même dans le marché américain, on vient de gagner un prix Online Journalism Award. C'est un des prix les plus prestigieux des médias digitaux dans le monde. On l'a gagné pour notre projet Verificado. On a vérifié l'information au Mexique pour l'audience mexicaine. Franchement, je trouve que ces accusations, notre produit les nie. Je n'ai vraiment pas besoin de commenter ça.
AG+, est-il un média d'opinion ? Ce sera ma dernière question.
Des fois oui, des fois oui. Et je suis pas pour le journalisme neutre, ça n'existe pas. Je suis pour un journalisme très professionnel. On va pas mentir, on va pas cacher des trucs. Si on fait une pièce d'opinion, il faut le dire que c'est une pièce d'opinion. C'est là l'honnêteté de faire du journalisme d'opinion. C'est important. Le journaliste a une opinion, mais il faut juste préciser que c'est pas des faits, c'est une opinion. Voilà.
Merci beaucoup, Dima Khatib, directrice générale d'AG+, en arabe, en anglais, en espagnol et désormais en français.